RMC.
C'est le bleu qui ressort et le bleu de la France qui ressort. C'est-à-dire le bleu absolu, quoi. Le bleu du jour et de la nuit.
Le Super Football Show.
Ah, ce petit compliment pour m'inciter à répondre. Allez, au-delà, tu me prendrais pas pour un père drôle un peu, hein?
Jusqu'à minuit, c'est l'afterfoot.
Tu me prendrais pas pour une galinette cendrée un peu, non? Je te vois arriver avec ton fusil.
Jean-Louis Tour.
Bonsoir à tous, c'est parti pour l'after après ce match et cette victoire donc de l'équipe de France 2-0 face à l'Irlande. On est en direct sur RMC, bien sûr, à la radio, sur BFM Sport comme tous les soirs dans l'after, et en plus exceptionnellement sur SFR Sport ce soir pour débriefer donc cette victoire des Bleus 2-0 grâce à Giroud et Fekir avec le pilier du lundi. Pierre Ducrot est avec nous. Salut Pierre.
Je te savais galant, je pensais que tu commencerais par...
Je garde la surprise pour la fin.
Voilà, je dis pas qui parce que je veux te laisser la primeur.
Exactement.
Mais c'est moyen, mon Jean-Louis.
Non, c'est justement pour ménager la surprise et l'accueillir comme il se doit.
Salut Jean-Louis.
Puisque c'est sa première dans l'after ce soir, Laure Lepailleur est avec nous. Bonsoir Laure.
Bonsoir.
Et bah, bienvenue dans l'after.
Bah super, heureuse d'être là, de vous accompagner pour cette petite heure.
Alors, il nous manquait quelques titres de champion de France avec Pierre. Donc,
c'est pas faux.
Laure est là pour
c'est
ça.
Pas faux.
Trois fois champion de France. Groupe, moi.
Ouais, je crois que c'est ça. Et puis, je dois avoir deux coupes de France, je crois que c'est.
Voilà.
Et même sur les coupes, elle est
et 38 sélections en bleu.
Voilà.
Ouais, bah là-dessus aussi. Alors.
Mais bon, ouais, non. En tout cas, tu vas pouvoir nous dire tout ce que t'as pensé de la rencontre,
okay.
Analyser avec tous les afteriens qui vont nous rejoindre au 32-16, cette victoire des Bleus 2-0 donc face à l'Irlande. Il y aura l'évaluation de l'after évidemment, comme après chaque match, on est là jusqu'à minuit avec vous au 32-16. Et pendant l'évaluation, venez bien au 32-16, on aura des maillots à vous faire gagner, des maillots de l'équipe de France. Donc restez bien avec nous pour suivre tout ça. Alors bien sûr, on est également en simultané sur SFR Sport, donc pas de vestiaire ce soir. D'habitude, vous avez les confidences d'anciens joueurs. Laure, tu aurais pu raconter un secret de vestiaire, mais non, voilà. Vous retrouverez votre émission demain donc sur
tu as déjà fait le vestiaire?
Non.
Non? Ah bah voilà.
Première question. Faut donner un secret de vestiaire.
Voilà. Donc t'arrives toujours à en trouver un qui est que tu peux dire.
Ah, qu'on peut dire.
Oui, voilà. un secret qui est pas un secret, quoi.
Non, mais ça, c'est pas rigolo. Le principe, c'est justement de dire des trucs,
secrets.
Bah oui.
Bah oui. Bah bon.
Alors, l'équipe de France, pour son premier match de préparation, a donc gagné 2-0 face à l'Irlande. Première considération générale. Après, on va revenir, bien sûr, hein, sur les cas particuliers, ligne par ligne. On va, y revenir en détail. Les Bleus sont imposés 2-0 grâce aux deux buts en fin de première période. Giroud à la 40e et Nabil Fekir à la 43e sur une faute de main du gardien. Giroud est né à 31 buts avec l'équipe de France désormais.
Ça commence à être pas mal. Hein.
Exactement. Ça le met
un bon ratio.
À égalité avec Zinedine Zidane dans l'histoire de l'équipe
Excusez
de France.
Excusez du peu.
Voilà. Donc déjà, première considération générale, Pierre.
De façon très générale, moi ce que j'ai remarqué en premier, c'est la pluie.
À la pluie, oui.
Ah ouais, ça c'est très général, mais ça a eu, ouais voilà, ça a pas aidé. Disons.
Est-ce qu'on peut tirer des enseignements d'un match comme ça, ou est-ce que c'est les matchs
beaucoup,
de préparation?
Pas beaucoup, si ce n'est que l'équipe de France a fait le boulot et rentré sérieusement dans ce match-là, a eu le mérite de mettre les buts quand il fallait les mettre aussi. Voilà, pour éviter le match déconvenu où effectivement t'as le ballon pendant je sais pas combien, j'ai pas regardé les stats, mais 80% du temps, je pense, au moins, et où tu te prendrais un vieux but à la fin si t'avais pas fait le boulot avant, quoi. Donc voilà, mais c'était trop faible en face, honnêtement, pour pouvoir juger quoi que ce soit, enfin, en tout cas, pas grand chose.
Donc c'est plus un match d'entraînement, c'est comme ça qu'il faut le prendre, Laure?
Ouais, c'est pour donner un peu de temps de jeu à ceux qui en manquaient, et c'est vrai que finalement, cette rencontre, elle soulève pas trop les interrogations qu'on avait sur les derniers matchs. On cherchait d'avoir des automatismes défensivement, et puis finalement, ils ont pas eu à défendre quasiment du match. On a vu que on voulait des certitudes sur les latéraux. Voilà, on a vu qu'ils ont pu prendre le couloir, etc. Mais on les a pas vus opérer défensivement. Donc c'est voilà, on n'a pas des réponses à toutes nos questions sur cette première rencontre.
Oui, et surtout offensivement, effectivement, on sait que l'équipe de France a du mal contre les équipes bien regroupées qui défendent bas dans leurs 30 mètres. Bah là, on n'a pas l'impression de trop progresser parce que bon, c'est dur, hein. C'est la configuration
la plus dure. Il y a eu des passages, moi, où j'ai bien aimé la relation Fekir Mbappé. Parfois Mbappé, même avec Olivier Giroud, qui ont essayé de combiner, etc. Mais effectivement, c'est pas suffisant pour s'apporter des certitudes ou se rassurer. Est-ce qu'on en attendait plus honnêtement de ce match-là? Je suis pas sûr. Honnêtement, avant le match, on l'avait dit hier soir, on l'a dit très souvent, et puis pas que nous. Ce genre de match, finalement, t'as beaucoup à perdre si tu passes au travers,
ouais.
Et t'as pas grand-chose à gagner si tu fais le match, le bon match, quoi.
Mmh. Vous avez vu des joueurs qui ont perdu justement, qui auraient pu saisir leur chance et qui n'y sont pas parvenus. Il y avait pas mal d'interrogations sur Fekir, effectivement, parce que Fekir, c'est le peut-être le remplacement de Griezmann, voire plus s'il est bon.
Ouais, ouais. Ça peut être associé aussi à Griezmann.
Voilà. Mais alors pour ça, il faut être bon. Est-ce que il a été suffisamment bon ce soir?
Moi, en tout cas, je l'ai trouvé mobile. J'ai trouvé que dès le départ, il avait essayé de se mettre entre les lignes, de combiner beaucoup avec ses milieux de terrain, avec ses attaquants. Je l'ai trouvé plutôt bien dans son match. Une fois de plus, dans un match où, honnêtement, s'il faisait pas au moins ça, ça aurait été ridicule. Donc c'est bien, mais c'est juste bien, quoi.
Alors, il t'a plu, Fekir?
Bah, en fait, au départ, j'ai trouvé qu'il avait eu du mal à se situer. En fait, trouver ses marques dans son rôle, dans cette animation où il y avait les trois attaquants. Et puis, au fur et à mesure, il a commencé à prendre ses marques. Il est devenu intéressant parce qu'au final, on l'a quand même, enfin, beaucoup vu. Il a essayé d'avoir beaucoup de ballons. Après, il aurait dû un petit peu sur certaines actions un petit peu épurer. Il a voulu parfois en faire un petit peu trop. Et il faut la donner un petit peu avant. Je pense en première mi-temps, un dédoublement où il fait la différence tout seul. Et puis, on a un dédoublement de Sidy B. Et puis, il la donne pas au bon moment. Et c'est sur ce genre d'action, voilà, qu'on peut mettre en difficulté un bloc bas.
Ouais, ça a été exactement. Assez général aussi, ça, ou parfois la petite touche en trop, la petite talonnade en trop, Mbappé en a fait quelques-unes aussi. Bon, ça a été, mais c'est, je pense, du fait que le match était aussi, c'est joué aussi sur 35 derniers mètres dans un bloc bas regroupé où à un moment donné t'as tendance à buter, puis
malheureusement, c'est des équipes comme ça qu'on aura aussi à la Coupe du Monde.
Pas que, oui, mais tu peux en avoir.
Au premier tour, je pense que le match contre l'Australie ressemblera sans doute à ça.
Peut-être l'Australie, le Pérou, je pense pas que ce soit ce genre de match.
On jouait davantage.
Pas du tout.
Ah oui, non, pas du tout. C'est pas du tout le style du Pérou. Au contraire, faut s'attendre à une équipe qui va jouer, qui va être agressive. Là, moi, j'ai été surpris. Allez, peut-être la première minute, je crois, où Steve Mandanda a eu un ballon et où il était pressé, on n'a pas eu un pressing irlandais du match, quoi. Il y a même pas eu des petites phases de pressing où ils ont été capables d'aller chercher un peu les bleus un peu plus haut, leur poser des problèmes.
Ouais,
ça a été jamais.
À la Coupe du Monde, clairement, même si on comparait un petit peu cette équipe à l'Australie, l'Australie va venir avec d'autres intentions. Hein.
À mon avis,
physiquement, etc., ça va essayer de sortir, défendre en avançant, parce qu'aujourd'hui, clairement, l'Irlande a rien proposé, quoi.
Ouais.
À part avoir mis deux lignes. Pour défendre, c'est tout ce qu'ils ont fait ce soir.
Oui, mais je me répète, mais je trouve qu'on a toujours des difficultés à gérer ça en équipe de France.
C'est vrai qu'on l'a eu aussi dans des matchs officiels où il y avait plus d'enjeux, où il y avait des équipes en face,
et même à l'Euro aussi.
C'est presque ce qu'il y a de plus dur. Quand t'es face à des blocs bas et très regroupés, il faut vachement de compétences et d'expertise technique pour pouvoir t'en sortir, mettre de la vitesse sans faire d'erreurs techniques.
On a l'impression que individuellement tous les joueurs français l'ont cette
Sauf que t'as beaucoup de joueurs.
Mais c'est collectivement.
Non, et puis c'est
en attaque. C'est qui se trouve les joueurs.
Non, je pense aussi que t'as beaucoup de joueurs, mis à part Giroud peut-être, mais t'as beaucoup de joueurs qui aiment les espaces. Aussi, Griezmann aime les espaces, Mbappé aime les espaces, ceux qui sont rentrés aussi, t'en as très peu là, et c'est peut-être pas ce qui correspond le mieux à la France. Très souvent, la France a fait ses meilleurs matchs contre des équipes qui étaient capables de effectivement la repousser un petit peu et qui lui offraient plus d'espace. C'est aussi par rapport aux compétences et aux qualités des joueurs, hein, tout simplement.
Les messages sur le hashtag RMC Live, bien sûr, on vous attend également au 32-16. Si vous êtes d'accord avec ce qui se dit depuis le début de l'after sur cette victoire des Bleus 2-0 face à l'Irlande ou non, on vous attend. Mais attendez, Fekir, pour moi, c'est l'homme du match, nous dit à la Madrid. Vous cherchez le petit truc qui va mal. Vous trouvez que c'est l'homme du match, Fekir, vous?
Non, mais on a dit qu'il avait été bon.
Non, il a dit qu'il avait été bon.
Je suis d'accord avec Laure. Les 10 premières minutes, il était un peu trop haut, je pense. Il était un peu trop haut. Il osait pas redescendre dans le milieu.
Mbappé aussi qui a dû un petit peu le perturber. Il savait pas trop comment se situer, je pense, par rapport aux attaquants. Mais je trouvais qu'au fur et à mesure du match, justement, il a été mieux en jambes. Mais je pense qu'il a pris confiance en lui aussi.
Ah ouais. Oui, c'est possible. Mais on a dit qu'il a été bon. Moi, j'ai beaucoup aimé le match de Nzonzi aussi au milieu, qui a été très simple mais très efficace dans son rôle de sentinelle. On l'a pas vu défensivement parce qu'il a pas eu à couper beaucoup d'actions, à jouer ce rôle d'équilibre, mais en tout cas avec le ballon, ça a été très propre et très lui a complètement épuré le jeu de l'équipe de France. J'ai beaucoup aimé.
Alors on va accueillir Stéphane qui nous rejoint au 32-16. Salut Stéphane, bienvenue dans l'after.
Oui, bonsoir à tous.
Bonsoir Stéphane.
Bonsoir. Alors qu'est-ce que t'as pensé de ce match, toi Stéphane? Est-ce que tu trouves que c'est un match intéressant qui apporte des enseignements, ou bon, ce genre de match un peu d'entraînement, on peut pas tirer trop de conclusions?
Non, mais c'est vrai que c'était un bon match d'entraînement, et il faut pas chercher plus loin que ça. Par contre, ça m'a un petit peu inquiété, Bon, moi j'ai écouté les commentaires de la télé, ils étaient dithyrambiques pour Mbappé, pour Fekir. Moi je suis pas trop d'accord avec ça et j'espère que quelqu'un leur dira qu'on doit attendre plus et mieux d'eux. C'est-à-dire qu'il y a indéniablement ils ont des qualités techniques extraordinaires, mais Fekir ralentit le jeu trop souvent. Mmh. Il a très rarement joué à une touche de balle. Je préfère beaucoup ce que fait Tolisso, par exemple. Et quant à Mbappé, c'est pas un championnat de gris-gris, parce que je trouve qu'il est un peu en voie de némarisation, c'est-à-dire de faire du spectacle. C'est bien, mais il faut que ça reste efficace. Et là, c'est pas efficace. C'est-à-dire faire un gris-gris sur le dernier défenseur pour le mettre dans le vent et s'ouvrir la voie du but, ça c'est parfait. Mais le faire à d'autres endroits du terrain où ça sert pas à grand-chose, c'est un peu dommage.
Bah écoute,
donc,
Stéphane, on peut en discuter du match d'Mbappé aussi. On a parlé de Fekir, mais Mbappé, trop de gris-gris, il en fait un peu trop parfois, Laure?
Bah en fait, je pense qu'il est plein de bonnes intentions, il veut bien faire. Mais je trouve que parfois il faudrait qu'il épure un petit peu plus son jeu, c'est-à-dire qu'il fait parfois le bon appel, mais il fait la touche de trop, qui fait que du coup son coéquipier il est pas dans le bon tempo. Voilà, donc peut-être à par moment jouer un peu plus simple pour être plus efficace.
Ouais. Après là où il se passe quelque chose en attaque, c'est souvent quand même lui qui déclenche le ballon. Hein.
Alors le souci moi premier pour Mbappé, je pense, c'est qu'il a dénaturé un peu son jeu, et là je rejoindrai Yannick, c'est ça?
Stéphane.
Tu peux l'appeler pourquoi Yannick, je ne sais pas. mais Stéphane, c'est mieux sur le fait qu'il fait parfois, et ça a été le cas au PSG très souvent cette saison, du mimétisme un peu de Neymar. Et il est beaucoup plus efficace quand il est dans ce qu'il faisait très bien à Monaco et qu'il fait un petit peu moins maintenant, c'est-à-dire quand il bouffe les espaces devant, quand il fait parler sa vitesse.
Et là ce soir,
c'est compliqué à faire. Le problème, c'est que quand il a pu le faire à un moment donné, il a pu le faire sur une passe d'Enzonzi déviée par Giroud, je crois, où là il a l'espace, et là on voit qu'il peut faire la différence. Ouais, sauf que sur cette action, et là je rejoins encore Stéphane, la différence il l'a fait. Et quand il arrive dans la surface, qu'est-ce qu'il fait? Au lieu d'aller au bout et frapper du gauche croisé simplement et efficacement, il attend, crochet, voilà. Il revient, il essaye de la mettre à Giroud, mais c'est plus dans le bon timing. Donc effectivement, ça a été souvent un souci cette saison, et parfois il est là-dedans. Mais tu l'as dit aussi, très souvent, quand il se passe quelque chose, c'est lui le déclencheur aussi. Il a cette faculté à déposer tout le monde sur 3-4 mètres quand il démarre, c'est assez fabuleux.
En fait, dans les matchs comme ça, on peut tirer des enseignements que des attaquants, finalement. Parce que derrière, on n'aura pas grand chose à dire, on fera l'évaluation tout à l'heure.
On peut rien dire derrière. Ils n'ont pas été une fois en danger, une fois sollicités, quoi.
Ouais. Mais Stéphane, même si Mbappé doit épurer son jeu, il est incontournable quand même dans cette attaque.
Oui, enfin en tout cas, il est incontournable.
Non, pas pour
toi. Soit comme titulaire, soit comme rentrant en jeu à un moment donné. Dans certains cas, ça peut être bien de faire rentrer en jeu une fois justement que la défense est un peu fatiguée, parce que là, il fera encore des différences plus grandes. Mais pour moi, c'est un excellent joueur. Simplement, faut pas qu'on en fasse déjà une telle vedette que il arrêterait de travailler et de se perfectionner, parce que, à mon avis, le chemin est encore long pour avoir une réelle efficacité, et c'est ça qu'on attend à la fin. Je veux dire, autant Giroud n'a pas les mêmes qualités du tout, avec les qualités qui sont les siennes, il a encore marqué ce soir.
Oui, on leur demande pas la même chose non plus aux deux.
Non, bien sûr, mais à la fin, ce qu'on demande à l'équipe, c'est quand même de marquer des buts, quoi. Alors que ça soit après une action en profondeur de Mbappé, ou que ça soit comme là sur une tête, ou après un but à l'arrache de Giroud à la fin, ça fait un but pour l'équipe, quoi. C'est ça qui est le plus important. Après que Mbappé soit plus agréable à regarder jouer que Giroud, ça je l'admets tout à fait, hein.
Stéphane, merci d'être venu dans l'after.
Okay, merci Stéphane. Merci à vous.
À très bientôt. Alors on décide de s'interroger, quels sont les enseignements de ce match, à quoi sert ce genre de rencontre? Alors on l'a dit, c'est des joueurs offensifs, hein. Pour Didier Deschamps, c'est de donner du temps de jeu un peu à tout le monde aussi. Il a fait tous ses remplacements, et en plus on a pu identifier, même si on s'en doutait un peu, qui remplace qui. Avec les remplacements. Oui. Bon, derrière on le savait, Mendy, Hernandez, Sidibé, Pavard, Umtiti, Kimpembe, Tolisso, Pogba, ça va être aussi un des duels sur lesquels on va pouvoir revenir, je pense, dans l'évaluation aussi. Mbappé, Dembélé, Fekir, Griezmann. Au moins les choses sont établies comme ça, Pierre, selon toi?
Oui et non. Sur les postes défensifs peut-être, sur les postes offensifs, t'as tellement de formules possibles. que Dembélé peut remplacer quelqu'un d'autre que Mbappé, voilà, très très facilement. Si tu veux, par contre, un autre enseignement, moi, c'est l'état de forme, parce que je pense qu'on va en parler de Mendy. J'ai noté déjà une différence physique entre la première période et la seconde, ou du moment où il y a été.
Alors vas-y, bah, dis-nous, parce que c'était les curiosités, et je me souviens que
il est
descendu un doute sur le retour de Mendy.
Je les ai toujours, les doutes. Alors j'adore ce joueur, hein, je précise que voilà, s'il est en pleine bourre toute la Coupe du Monde, ce sera un gros avantage pour la France. Moi, j'ai très peur qu'il soit dans cette phase où il a énormément bossé pour revenir. Il va continuer à avoir une préparation athlétique spécifique à Clairefontaine où il va bosser énormément. Il va falloir qu'il ait du temps de jeu, forcément. Et j'ai très peur du creux qu'il y a après et que ça corresponde malheureusement au match important en équipe de France. J'espère me tromper. Honnêtement, j'espère me tromper parce que quand on s'en rappelle très en forme, c'est au-dessus de tout ce qu'on a. Mais aujourd'hui, alors déjà, il y a le côté Peps que j'ai pas retrouvé chez lui encore, mais c'est normal. Il y a un problème. Il pourra pas tout de suite avoir ces trois appuis qu'il avait avant. Il va falloir qu'il.
Ça, c'est l'explosivité.
Il va falloir que, même avec toute la bonne volonté du monde et le travail, il va falloir le temps pour que ça revienne. Et puis moi, après, il y a le côté foncier aussi, où je me demande s'il va pouvoir enchaîner 1, 2, 3 matchs de très bon niveau, quoi.
Alors on avait le docteur Paclet dans Team Dugas cet après-midi en direct, ancien médecin des Bleus. Il était franchement optimiste. Hein.
D'accord.
Il dit qu'il n'y a pas de raison pour être négatif. En tout cas, il dit médicalement,
c'est une chose.
Et la rechute n'est pas obligatoire.
Non, moi je te parle pas d'une rechute que son genou lâche ou qu'il soit pas bien avec son genou. C'est pas ça. C'est l'état de forme général, parce qu'il a beaucoup bossé et que t'as forcément ce creux ensuite où le corps a besoin de souffler derrière.
C'est vrai. Lui, il nous disait que ça peut être anticipé aussi, ça. Mais bon,
j'espère. Voilà. Ouais, c'est surtout j'espère. Que j'attends de voir. Je pense que Didier Deschamps vendredi il mettra une toute autre équipe et de voir justement contre une confrontation. Le niveau va être plus élevé, l'Italie, forcément ça sera pas l'Irlande. Voir justement dans un match où il doit faire les efforts défensifs, parce que là clairement il a rien eu à faire défensivement, et il doit faire les efforts offensifs pour apporter un plus, bah justement voir comment il va se comporter et s'il est capable de tenir 90 minutes.
Oui, c'est sûr que Mendy c'était l'interrogation ce soir. Sidibé aussi, bon, c'était pas la même blessure, hein, ça c'est sûr.
J'ai bien aimé son match.
J'ai trouvé qu'il a été plutôt intéressant en deuxième mi-temps. Il a délivré quelques bons centres, il a souvent fait l'effort de faire le dédoublement sur le côté. Je trouve qu'il a été plutôt intéressant et c'est de bon augure pour les Bleus.
Non, je l'ai trouvé un peu plus en jambes effectivement que Mendy sur son côté, mais c'est aussi normal pour moi. Il a pas eu la même reprise non plus.
Alors on a déjà commencé un peu l'évaluation. En même temps, c'est difficile de faire autrement après un match des Bleus. On a envie justement de s'attarder sur les cas individuels. À 17 jours du début de la Coupe du Monde, l'équipe de France s'est donc imposée 2-0 face à l'Irlande. On reviendra aussi en fin d'after sur les autres résultats du soir. 2-2 entre le Portugal et la Tunisie. Les Portugais qui menaient 2-0 dans cette rencontre grâce à André Silva et João Mario, et retour à donc des Tunisiens qui font finalement match nul 2-2. L'Italie a battu l'Arabie Saoudite 2-1. On vous proposera sur BFM Sport le but de Balotelli tout à l'heure, qui a ouvert le score pour son retour avec la squadra. Et donc l'Italie que l'on retrouve avec l'équipe de France vendredi à Nice, ce sera le deuxième match de préparation.
Balotelli,
le troisième
à Nice, ça va être bon.
Et ouais, exactement.
Il est chez lui,
voilà. Et on va voir si la défense française est capable de le contenir aussi.
Ah ouais. Voilà. Oui, c'est un autre type de client. Et puis d'un point de vue collectif, c'est aussi autre chose que l'Irlande, effectivement.
C'est ça. Et puis donc le 9 juin, ensuite il y aura le match face à Lyon pour l'équipe de France.
À Lyon plutôt.
À Lyon face aux États-Unis. Voilà. David est avec nous au 32-16. Salut David.
Bonsoir tout le monde. Bonsoir Laure.
Bonsoir
David.
Bon, alors qu'est-ce que t'as pensé de ce match, toi, ce soir?
Moi j'ai trouvé que c'était disons que c'est difficile à juger parce qu'il y a une grande différence entre les deux équipes. Moi j'attendais de voir un petit peu défensivement et pas forcément sur les états de forme des deux latéraux, mais plutôt sur une certaine complémentarité. Et puis voilà, on avait pris des buts dernièrement, par exemple contre la Colombie, et là c'est totalement impossible à juger sauf offensivement, et une défense c'est pas seulement offensivement bien évidemment. Donc c'est pas simple. Il y avait un trop gros écart de niveau entre les deux formations, on le savait, mais moi j'ai trouvé que ça a vraiment manqué de répondant pour préparer un match pour une Coupe du Monde.
Oui, c'est vrai que il faut peut-être des adversaires aussi.
Parce qu'effectivement, l'Irlande nous a pas aidé ce soir.
Oui,
c'est compliqué de tirer des enseignements et tout le monde. Enfin voilà, chez soi dans son canapé. Tiens, nous on a beau essayer de regarder un petit peu, d'un point de vue général, c'est compliqué de retirer des enseignements.
David, est-ce que t'as pas été choqué? J'ai Sylvain qui me dit ça sur le hashtag RMC Live. N'êtes-vous pas choqué par le conservatisme de Deschamps, milieu à trois contre une équipe comme ça? Mais tu peux pas. Est-ce qu'il fallait pas tenter quelque chose d'autre avec plus de joueurs offensifs?
Je vais répondre David d'abord et
Pierre dira après. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses, David?
Moi, disons que oui. Moi, je pense que oui. La personne qui met ça, oui, effectivement. Mais il faut pas vraiment chercher. De toute manière, contre n'importe quel adversaire, je pense que l'équipe de France jouera comme ça. Donc, de toute manière, lui, il a confiance en ce système-là. Il a joué lui-même la grande période de l'équipe de France et voire même
oui,
même en finale
même
de Coupe du Monde exactement comme ça avec Carambeu et Emmanuel Petit. Donc de toute façon voilà, on va pas revenir 20 ans en arrière, ça a pas vraiment d'indication, mais on est avec un sélectionneur qui croit, je sais même pas s'il croit vraiment au 4-3-3, je pense qu'il croit vraiment aux trois gars au milieu plutôt à consonance défensive. Voilà.
Attendez, David et Pierre, je vous coupe parce que Didier Deschamps s'installe en conférence de presse. On va écouter ses premiers mots après la victoire des Bleus 2-0 face à l'Irlande.
Cette équipe d'Irlande, elle a craqué en fin de première mi-temps, mais sur le plan des intentions et le mouvement, la disponibilité, oui, on a fait vraiment de bonnes choses.
C'est la conférence de presse.
Did the game answer all your questions?
Dans la foulée. Donc les Bleus ont gagné 2-0. Je vous rappelle, si vous nous rejoignez seulement maintenant, but de Giroud et Fekir. On va essayer d'avoir une deuxième réponse quand même de Didier Deschamps, du sélectionneur. François nous dit sur le hashtag RMC Live, Pierre, est-ce que ça ne fait pas bizarre d'avoir quelqu'un de calme en face de toi? Oui, Laure Le Payeur, c'est vrai que Daniel Riolo.
Non, Daniel peut être très très calme.
Oui.
Et parfois, alors je vais attendre un petit peu d'avoir un peu plus longtemps Laure, parce que il peut être très très calme, mais parfois, bim, ça pète un peu. Donc je vais attendre de voir si Laure c'est pareil ou si elle est tout le temps calme.
On retente notre chance avec Didier Deschamps.
C'est deux cas différents, oui. Après, Djibril, lui, il avait déjà repris, il avait fait un bout de match et un match pratiquement complet avec son club. Donc voilà, il n'y avait pas d'inquiétude particulière, tranquille, serein, appliqué. Benjamin, lui, c'était nouveau pour lui de débuter en match, donc c'était prévu qu'il fasse 60 minutes pour pas prendre de risques, surtout sur le plan musculaire. Premier ballon, toujours un petit peu pas d'appréhension, mais prendre la température. Après, voilà, il est comme il est. Certes, il a pas le rythme encore complètement, c'est normal, mais c'est une étape importante pour lui à travers ses 60 minutes aujourd'hui.
Didier Deschamps, donc on repart sur la traduction forcément. Alors évidemment, s'il y a quelque chose de fort dans la conférence de presse, on vous en parlera dans l'after. Donc sur le milieu à 3, Pierre, tu disais, on est toujours avec David hein, au 32-16, que toi ça te choquait pas dans ce genre de match?
Ce qui ne me choque pas, c'est que Didier Deschamps applique le système qu'il va appliquer en Coupe du Monde. C'est un match de préparation, il va pas sortir de son truc parce que là il joue l'Irlande.
Moi je l'avais entendu déjà dans des interviews dire on pourra aussi jouer avec un joueur offensif en plus contre
C'est l'animation en fait. Enfin moi ça part de l'animation, on a vu je relève sur ce match une des satisfactions pour moi, c'est Tolisso.
Oui.
Parce que sur ce match clairement, c'est lui qui a créé le plus de mouvements au milieu de terrain en première mi-temps, c'est lui qui a souvent l'initiative de la prise de vitesse qui amène une action offensive.
Eh ben écoute, moi aussi m'a plutôt lisse. On va y revenir dans l'évaluation de l'after dans une seconde.
Il a jamais dit ça, Daniel.
Non. Moi, si quand même. Je suis d'accord avec Daniel parfois.
Très rarement.
Mais bon, c'est vrai que c'est différent. Excuse-moi. Laure est souriante. Ça me fait bizarre.
Oh, le pauvre Daniel.
David, merci d'être venu au 32-16.
Ciao, David.
À bientôt tout le monde.
À bientôt dans l'after. Et je vous le disais tout à l'heure, on a des cadeaux. On a des maillots de foot à vous faire gagner ce soir dans l'after.
Ils vont être contents les deux pour le mondial. Et qu'on pas eu de maillot du coup.
Ah bah c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux. C'est pas l'école des fans ici, tout le monde gagne pas, Pierre. Vous allez pouvoir gagner un maillot floqué avec le nom du joueur qui sera élu homme du match dans quelques minutes. Pour tenter de gagner votre maillot, vous envoyez dès maintenant foot par SMS au 732-16. Vous avez 20 minutes pour jouer, donc allez-y. Envoyez des SMS et vous aurez une chance de gagner le maillot de l'équipe de France. Jérémy nous dit, moi je serai toujours d'accord avec Laure, grâce à ses yeux bleus. Voilà. Vive la radio télévisée. Bah oui, tu es aussi sur BFM Sport. Voilà. Non, alors sinon, on nous dit aussi pas mal des analyses de Laure. Il n'y a pas que l'histoire des yeux. Posée, cohérente, c'est pas mal.
Bah oui.
C'est moi très bien. On nous dit ça change de Pierre.
Non, toi tu l'as rajouté. Ah, c'est grave.
Ça se voit quand même.
Ça se voit, bien sûr.
C'est vrai. Évaluation à venir dans un instant. Tolisso est également. Est-ce qu'il doit être titulaire en équipe de France à la place de Pogba?
Ah bah moi je dis oui.
Et bah moi aussi. On va être tous d'accord.
Ah bah moi aussi.
Ah bon? Tu vois qu'il nous manque Daniel. Il nous aurait dit non. Il nous aurait dit non. Mais si.
Pas là-dessus.
Mais si.
Ah là, je connais mon Daniel.
Mais si, parce que si on dit oui, il dit non.
Non,
non, c'est vrai que si c'est pour pas faire jouer Pogba
là-dessus,
et mettre
Tolisso,
il aurait mis Tolisso, c'est sûr aussi.
Je suis prêt à l'appeler. Hein.
Ouais, bah appelons-le, tiens. Puis on lui offrira un t-shirt.
À tout... Un maillot de l'équipe de France,
quand même. L'équipe de France.
Allez, à tout de suite dans l'after.
RMC, le super football show, l'after foot, Jean-Louis Tour.
L'after est là avec Pierre Ducrot ce soir, avec Laure Lepailleur qui fait sa première dans l'after. Tout va bien, Laure?
Super.
Très bien. Pierre est gentil avec toi?
Ouais, oui.
Bah oui. Je suis gentil avec tout le monde. Moi, je me
préoccupe parce que
tout le monde est gentil. C'est bon, c'est détendu.
C'est sa première. Je me soucie.
C'est vrai. Voilà. Tu as raison. Tu
as toujours été gentil. Avec Ravanelli, t'étais gentil.
Avec les gentils, oui. Ouais. Ceux qui sont méchants, non.
T'étais gentil sur le terrain, alors?
Pas tellement.
Ah oui.
Défenseur. Ah, je suis défenseur.
Obligé, hein.
T'es obligé. Ouais. T'es obligé, ouais, si tu veux te faire respecter. Hein.
Toi, tu salues Sergio Ramos.
Bah oui, un peu. Hein.
Voilà.
Il en faut toujours.
Bah, ça s'appelle le vice,
si
ça s'appelle le métier.
Hier, t'as compris que
ça s'appelle le métier.
Voilà. Ouais, voilà.
Bon, ah oui, oui.
Il en faut. Pour gagner, il en faut.
Voilà. Laure Lepailleur, donc, ancienne joueuse de l'équipe de France, plusieurs fois championne de France également, qui est avec nous ce soir dans l'after pour revenir sur cette victoire 2-0 des Bleus face à l'Irlande. On y va sur l'évaluation qu'on a déjà un peu commencé, mais on va la poursuivre avec Christophe qui est avec nous. Salut Christophe.
Salut à tous. Bonsoir.
Alors,
bonsoir,
on était sur Tolisso, juste avant l'interruption. Tolisso qui fait un bon match, qui est bon avec l'équipe de France depuis plusieurs mois maintenant. Donc on est d'accord tous les trois. Alors Pierre, vous mettez plutôt Tolisso que Pogba?
Ah oui.
Pour commencer la Coupe du Monde.
Bah, en l'état de forme actuel, oui.
D'accord.
Et sur ce que j'ai vu pendant la saison aussi.
Christophe, t'es d'accord toi avec ça?
Ah oui, complètement d'accord. Quand on voit ce garçon qui avait déjà un très beau volume de jeu quand il était à Lyon, depuis qu'il est parti au Bayern, a pris la pleine mesure de ce poste-là. Il a joué juste. C'est vraiment le baromètre de ce soir. Je pense qu'il a eu les bons choix. Il fait un poteau. Il n'est pas récompensé. Mais quelque part, c'est une super satisfaction. Et je pense que pour la Dèche, c'est un bon soutien. Ça, c'est un bon point, ça.
Il a pris du vice aussi, moi je trouve. Il a énormément progressé en termes d'expérience.
On l'a vu en Bulgarie, je crois notamment.
Ouais, effectivement. Et ça fait du bien à l'équipe de France. Et puis là, comme le dit, excuse-moi, j'ai du mal avec les prénoms ce soir.
Christophe,
pardon.
Je vais l'appeler Yannick aussi.
Ouais, je vais tous l'appeler Yannick. Non, excuse-moi Christophe, j'avais oublié. Comme le dit Christophe, il joue de plus en plus juste, quoi, dans le bon tempo, dans le bon timing de ce que réclame le jeu. Ouais. Et finalement, t'en as pas tant que ça. Et ça, pour moi, c'est une grosse différence avec Pogba. Justement.
En fait, on a suffisamment devant de manieurs de ballon, de joueurs qui dribblent,
exactement,
pour avoir des joueurs simples qui sont d'ailleurs en plus, ils ont la simplicité d'être en zone d'interview au moment où on parle de Corentin Tolisso en direct du Stade de France.
Et vers la 60-65e, il a commencé à repleuvoir énormément. Donc voilà, après c'était des conditions un peu difficiles, mais je pense qu'on a fait le boulot ce soir, on a fait un bon match, on a réussi à marquer deux buts sans en encaissé, donc c'est une bonne chose.
Comment vous êtes senti, vous, perso, en fait, partie de ces joueurs qui jouent dans un match comme ça, vous n'avez pas joué leur place à la compète?
Ouais, effectivement, je sais que voilà, après tout le monde est vu par ses performances, par ce qu'il fait sur le terrain, donc voilà, je savais que c'était à moi de faire les bonnes choses. Voilà, je me suis bien senti ce soir, j'étais en confiance. Après, voilà, il faut continuer à travailler et quand le coach fera appel à moi, continuer à essayer d'être bon. Comment
il a gagné des points ce soir?
Ça, faut le demander au coach. C'est que le coach qui pourra répondre. Après, non, mais moi je suis content de ce que j'ai fait. Après, voilà, si j'ai pas fait un match parfait, je sais que j'aurais pu faire mieux, délivrer une passe décisive surtout et pourquoi pas marquer. Mais voilà, il faut que je m'appuie sur ce que j'ai fait de bien et que je continue à travailler pour progresser.
Voilà, pour Corentin Tolisso, donc, et sa première action dans la zone d'interview, dans l'after, sur RMC, sur BFM Sport et sur SFR Sport ce soir, on vous le rappelle. Sur Tolisso, Malik 12 nous dit, non mais attendez, Tolisso à la place de Pogba, vous êtes malade, on a déjà Matuidi, Kanté au milieu. Est-ce qu'on peut avoir un mec un peu plus technique, capable de faire une bonne passe vers l'avant?
Parce que Tolisso, c'est pas technique.
Écoute, selon Malik, à mon avis, il pense que Pogba, c'est plus créatif.
Ben moi, j'invite Malik à regarder les matchs de Tolisso et à regarder le nombre de contrôles dans le mouvement et dans le jeu, dans le sens du jeu que fait Tolisso. J'invite Malik parfois.
C'est pas spectaculaire, mais c'est technique.
Ah, c'est la technique, c'est de la technique.
Ça s'appelle la technique, hein. C'est pas un geste technique, c'est pas forcément une roulette. Hein. Faire une bonne passe, c'est un geste technique. Hein.
Et honnêtement, on a tous beaucoup vu aussi Paul Pogba cette saison. Très souvent, alors c'est un joueur extraordinaire, je suis d'accord, il est capable de faire des choses quand il est en bon état de forme et en confiance extraordinaire, peut-être mieux que ce que peut faire Tolisso, sauf que ça a été tellement rare cette saison, honnêtement, on l'a rarement vu à son niveau, Paul Pogba.
Puisqu'on est sur le milieu, celui qui a peut-être perdu des points, c'est Matuidi, non? Sur le match aujourd'hui. Comment vous l'avez trouvé, Matuidi?
Ouais, sauf que ouais, Matuidi, on le juge pas là-dessus, quoi. On le juge sur autre chose.
Mais peut-être que dans ce genre de match-là, c'est peut-être pas ceux-là où il faut mettre Matuidi.
Si, si tu veux pas le mettre ce soir, oui, si tu veux, mais dans les matchs importants et officiels de Coupe du Monde, il y sera, parce que c'est le garant d'un certain état d'esprit, il emmène tout le monde
moteur.
Avec lui.
Ouais, c'est. Il est moteur en termes d'abattage, de projection quand même vers l'avant, il essaye de défendre en avançant et il a tellement un gros volume de jeu qu'il est hyper utile à l'équipe.
Christophe, tu mettrais qui en homme du match, toi, puisqu'on est dans l'évaluation de l'after, là?
Moi, je mettrais Tolisso. Je mettrais Tolisso quand même, parce que pour ce qu'il a fait, pour le volume qu'il a donné, pour la précision de son jeu, de ce qu'il a fait ce soir. Alors bien évidemment, ce soir, on avait une équipe de République d'Irlande qui escalait sans lui manquer de respect. Notamment, j'aurais bien voulu voir plus un peu la défense de travailler un peu plus que ce qu'elle a eu. Bon, il n'y a plus eu tant d'occasions que ça, donc ils n'ont pas été mis à mal. J'ai eu une grosse satisfaction aussi par rapport à Mendy, donc soit un peu du coq à l'âne, mais je trouve que ce garçon aussi à Lagnac, il a envie, on voit, il veut se démener. Il m'a fait un peu peur, un peu sur ses accélérations au départ, parce que quand on sait la grave blessure qu'il a eue, je me suis dit, j'espère qu'il en fait pas trop dès le premier match. Donc voilà. Et Tolisso, pour moi, reste l'homme du match. Okay. Pour moi.
Alors Christophe, puisque tu l'as désigné homme du match, tu auras droit à un maillot de l'équipe de France floqué Tolisso. Voilà. Donc on t'envoie ça, Christophe. Bravo.
Merci beaucoup.
À bientôt dans l'after.
À bientôt. Mathieu est là. Et juste un petit bonjour à Laure, qui est parce que je suis supporter du PSG. Donc
voilà.
Et on espère les voir en finale de Ligue des Champions contre Lyon l'année prochaine.
Ouais. Tu fais 3 ans au PSG.
3 ans et demi. Ouais.
Comment?
Non, je demandais alors combien de temps l'avait fait au PSG, Christophe. Donc oui, 3 ans et demi. Et bon souvenir.
Oui.
Ouais.
Ah oui, on a gagné un titre quand j'étais un titre de champion.
C'était quelle année?
C'était en.
Enfin, ta présence 2000, au PSG. 2009-2012.
De 2009 à. Voilà. Mais je suis arrivé en janvier en fait. Janvier 2009 et je suis resté jusqu'à fin de saison 2012.
D'accord. Ouais. C'est le début de la professionnalisation du foot féminin au PSG.
C'est ça.
2007-2008, par là. Quoi. Merci Christophe, on t'envoie ton maillot de Tolisso. Kylian Mbappé, zone d'interview, Stade de France, on y retourne.
Bien sûr, je pense que un attaquant, il se doit d'être décisif. Après, bien sûr, les fulgurances, c'est bien, mais c'est pas ça qui vous fait gagner un match. Ce qui vous fait gagner un match, c'est quand le ballon, il passe la ligne. Donc c'est le plus important. Après, ça vous met en confiance, les fulgurances vous mettent en confiance pour pouvoir être efficace et être utile à l'équipe.
Tu la sens bien cette préparation, cette montée en puissance vers le mondial?
Bien, on a un bon groupe, des joueurs de qualité, on essaye de créer une équipe parce que c'est les équipes qui gagnent et je pense qu'on avance bien, on est sur le bon chemin.
Qu'est-ce que vous connaissez des adversaires de l'équipe de France en Coupe du Monde? L'Australie, le Danemark,
la question c'est, est-ce que vous connaissez les adversaires?
Certains joueurs, après on aura le temps de se mettre dedans. Je pense qu'aujourd'hui c'est la préparation. On a un match contre l'Italie, une grande nation du football, donc on va rentrer tranquillement dans cette Coupe du Monde.
Est-ce que toi t'as réussi à avoir ton ami Adrien Rabiot pour connaître un petit peu son état d'esprit et sa position?
Rabiot.
Non, c'est un grand garçon. Je pense que s'il a pris cette décision, c'est qu'il a réfléchi et je suis personne pour lui donner des leçons. Et je suis encore plus jeune que lui, donc pour m'écouter.
Qu'est-ce que tu retiens de la victoire dans le point de
Voilà, Kylian Mbappé donc dans la zone d'interview.
C'est
un discours d'Mbappé quand même.
Oui,
hein. Il est fort quand même. Hein. Il dit que c'est l'équipe qui gagne les grandes compétitions. Le plus important c'est quand le ballon franchit la ligne. C'est pas les fulgurances.
Je pense qu'aussi fait un peu l'analyse de son match parce qu'il sait qu'il a tenté beaucoup de choses et qu'il a pas été décisif à son goût. En tout cas, lui, à mon avis, il juge sa prestation en demi-teinte. Hein.
Ah, ouais.
Et je pense qu'il est pas il est pas content de lui, de sa prestation, et c'est pour ça qu'il a ce discours après le match.
Je suis persuadé qu'il a cette occasion où sur la déviation de Giroud, il doit aller tout seul au bout parce qu'il va plus vite que tout le monde où il s'arrête et il l'a en tête parce qu'il se dit que s'il va au bout vraiment et qu'il fait juste la petite frappe croisée du gauche simple mais qu'il va au fond, il a un but au compteur ce soir et que il s'en veut un petit peu de pas avoir fait ça.
On poursuit notre évaluation.
C'est bien, il est lucide.
Ah, il est très lucide. Ouais. Ouais. Avec Mathieu qui nous rejoint au 32-16 dans l'after. Salut Mathieu.
Salut les amis.
Bonsoir Mathieu.
Bonsoir.
Alors, est-ce qu'il y a une individualité qu'on n'a pas encore citée que tu voudrais mettre en avant?
Moi, Djibril Sidibé.
C'est ton homme du match, lui?
Je vais dire que c'est mon homme du match parce que c'est un joueur que je ne pensais pas retrouver à ce niveau-là dans un match de l'équipe de France. Je suis supporter de l'AS Monaco, donc je le suis de très très près. Et pour moi, le latéral droit, c'était pas une certitude. Là, ce soir, il m'a apporté satisfaction. Il déborde énormément. Il est très fort au niveau de l'impact, au niveau de reprise de des balles et tout ça. Enfin, moi, je l'ai trouvé vraiment bon ce soir. Il est percutant, tout ça. Et Corentin Tolisso, les deux. Pour moi, ce soir, c'est deux joueurs. On ne sait pas trop s'ils vont jouer, etc. Moi, pour moi, Deschamps, il a déjà son latéral droit et son milieu de terrain, quoi.
Ouais, il faut les mettre pour toi. Ok. Bon, ouais, Mathieu, clairement. Pareil pour toi. On t'envoie le maillot de l'équipe de France.
Je suis d'accord avec Mathieu, sauf que j'attends un petit peu, effectivement, comme Laure l'a dit tout à l'heure. Ouais, de voir défensivement dans un vrai match plein où il va falloir faire les efforts contre efforts. Il va y avoir du répondant en face, offensivement aussi, pour juger. Mais c'est vrai que je suis assez d'accord. Offensivement, il a été juste et bon.
Il y a deux individualités dont je voudrais qu'on parle, dont on n'a pas parlé encore. Nzonzi devant la défense. Qu'est-ce que vous en avez pensé?
Moi, je t'en ai dit quelques mots tout à l'heure. Moi, je l'ai toujours trouvé. Enfin, je l'ai trouvé très efficace, très juste dans son rôle. Ouais. Pour lui, c'est un petit peu vrai aussi. Ce qu'on dit pour les latéraux, c'est que défensivement, il a jamais eu besoin d'être. Ouais.
Mais offensivement, est-ce qu'on n'attend pas un peu plus de risque?
Moi, voilà. Par contre, offensivement, c'est-à-dire que c'est vrai qu'il n'avait pas grand-chose à faire. Mais par contre, j'aimerais bien voir ses statistiques parce que je pense qu'il a quand même perdu peu de ballons dans l'utilisation quand il l'a récupéré. À chaque fois, ça passe. Enfin, elle était souvent réussie. Maintenant, c'est vrai que dans ce genre de match, peut-être que, étant donné qu'il n'y avait pas du tout d'attaquant irlandais dangereux et que derrière la défense avait rien à faire quasiment, peut-être qu'on l'aurait attendu un peu plus offensif. À un moment donné, j'aurais aimé qu'il prenne un peu plus de responsabilité et qu'il se projette un peu plus offensivement.
Ou dans les passes, peut-être.
Moi, non.
Des passes plus verticales.
Pas forcément. Honnêtement, là-dessus, je l'ai trouvé très bien dans son rôle et je suis pas sûr. Alors, je vois ce que Laure veut dire de venir un peu de derrière parfois dans un second temps sur certaines actions, mais je l'ai trouvé justement plutôt assez pertinent, parfois dans des passes entre les deux, notamment cette action d'Mbappé. Il y en a eu trois, quatre autres. Je suis pas sûr que d'avoir rajouté quelqu'un dans ce bloc très bas déjà. Enfin, il y avait déjà Fekir, Mbappé, Giroud, il y avait souvent Tolisso qui venait, il y avait Matuidi qui venait aussi. Ou alors il aurait fallu qu'un Matuidi reste un petit peu pour qu'il puisse y aller, mais ça a jamais été le cas. Il est toujours resté dans ce rôle de sentinelle et de. Alors c'est lui qui a tourné tous les ballons de gauche à droite, de droite à gauche. Je trouve que ça il l'a très bien fait. Bon, pour un premier match comme ça, je l'ai trouvé dans son rôle quoi.
Et Giroud. Giroud, auteur donc du premier but. Giroud qui marque donc son 31e but en bleu, qui égale Zidane, qui dépasse Papin et Fontaine, je crois, en équipe de France, qui a marqué sur ses 10 dernières titularisations en bleu, il me semble.
Ah, mais il a des stats en bleu de manière qui sont...
Voilà, faramineuses. Il n'empêche quand même que pendant 25 minutes, il touche pas un ballon. Giroud, quasiment.
On fait le même constat après chaque match de l'équipe de France, en fait. Alors après, on aime, on n'aime pas le style de Giroud, mais force est de constater qu'on a le même constat après chaque match, mais qu'après chaque match, souvent, il a marqué un but. Et que c'est souvent ces buts qui débloquent un peu les situations.
Ça le rend incontournable?
Ouais, ouais, alors moi c'est comme dit Pierre, c'est on aime ou on n'aime pas, je suis pas fan de ce genre de joueur, mais les stats sont en sa faveur et avec l'équipe de France, il a toujours été décisif. Donc oui, effectivement, dans le dispositif de Didier Deschamps, ça devient un joueur pour le moment indispensable parce que c'est lui qui marque les buts. Actuellement.
Ouais. Je sais pas si l'équipe de France marque autrement, si jamais Giroud aujourd'hui marque pas, mais il y en a pas un autre en équipe de France qui peut marquer le but que Giroud là marque. Il monte sur les Irlandais sur un corner. Enfin, il y a que lui qui peut le faire ça. Alors après, avec Dessy, tout est différent. Si Giroud joue pas et qu'il ne marque pas, il y en a un autre qui est là et qui marque peut-être différemment. Mais toujours est-il qu'à chaque fois, à chaque fin de match, on a le même constat. Giroud, c'est pas très joli. On n'aime pas trop. Il a pas touché beaucoup de ballons. Ah, mais Giroud, il a marqué un but. Tiens.
Non, c'est vrai. Moi, je trouve juste quand même que parfois, je me demande si l'équipe est faite pour profiter des qualités de Giroud. Pendant 25 minutes, il touche pas un ballon, il n'y a pas de centre. Il y a les mauvais corners de Fekir parce qu'il en a tiré très mal en les levant beaucoup trop en début de match. Il n'y a pas de centre dans le jeu.
Ouais, t'as pas tort.
Je me dis bon, à quoi ça sert d'avoir Giroud, c'est pour ça. Et puis bon, après il marque quand même de la tête. Hein, mais bon, voilà, je me dis il y a tellement de dribbles, de percussions, tu vois, il n'y a pas de centreur, bon. Ça doit être le travail des latéraux.
Non, mais
après, je me dis, en même temps, maintenant que Didier Deschamps est parti dans cette optique, ça devient hyper compliqué de peut-être changer le front de l'attaque maintenant, enfin cette période. Et il aurait peut-être fallu faire d'autres tests auparavant. Là, on est dans une phase de préparation. On a que 3 matchs avant le début de la compétition. Ça paraît compliqué d'inventer quelques, enfin, de changer les automatismes. Ouais.
On veut justement apporter encore plus de stabilité, de certitude, plutôt que de.
Puis normalement, ces centres. Bon, Mendy, on a mis quelques-uns quand même, mais Mendy, Sidibé doivent être capables d'apporter ces centres.
Après, dans une optique, on voit déjà quand Griezmann y rentre, il y a un peu plus d'automatisme déjà entre ces deux joueurs. Il y avait aussi la difficulté sur ce début de match, c'est qu'on avait quand même sur le front de l'attaque des joueurs qui avaient quasiment jamais joué ensemble. Donc ça, c'est tout de suite compliqué de créer des automatismes dès le début du match.
Ouais,
alors que voilà.
Même s'ils ont été
c'était plutôt pas mal dans les relations,
c'était plutôt normal. Ouais, mais effectivement, c'est pas des joueurs qui sont habitués à jouer ensemble.
Vous avez vu que Pogba, lors de son entrée, il y a plus de coupe de cheveux excentrique. Hein. Là, c'est des simples, sobres.
Tu vois, j'ai même pas fait attention à ça.
Il a peut-être lu le sélectionneur du Danemark.
Par contre, moi, j'ai remarqué un truc. Il avait pas une espèce de dattelle au genou. Au genou, non? Il avait pas
au genou?
Ouais, j'avais l'impression.
Alors, j'ai vu un genou avec
un genou, et j'ai l'impression que c'était lui.
Vous avez vu un genou?
J'ai vu un genou, effectivement. Pas une attelle,
une genouillère.
Oui, une genouillère. Voilà, merci. Je cherchais parce que la attelle, c'est vrai que ça fait beaucoup pour jouer, mais.
Je me dis.
Une genouillère, ouais.
Mais j'ai enquêté.
C'était pas Umtiti plutôt qui avait ça? Non, il avait pas un truc comme ça, Umtiti au genou?
Je sais pas, mais j'ai cru que c'était Pogba quand il est rentré.
Mais j'en ai vu une aussi. On n'a pas tort, j'ai vu une genouillère aussi.
Non, mais on est
sur un plan, j'ai vu et je sais pas trop.
Alors, on a l'inspecteur Rességuier au Stade de France. On va le missionner. Il va enquêter et on saura à qui était cette genouillère.
Ça
devra aller normalement. Mais on va se mettre sur le coup. Est-ce qu'il y a un entrant que vous voulez mettre en avant? Est-ce qu'il y a un joueur dont on n'a pas parlé encore qui mérite d'être mentionné dans cet after? On n'a pas parlé de Mandanda en même temps. Il n'a rien eu à faire.
Oui, il a rien eu à faire. Tu peux rien dire. Voilà. Un entrant, tu veux dire un homme qui est rentré pendant le match?
Oui.
Non. Pas tellement.
Ah ouais, non, franchement.
On n'a pas parlé du gardien de l'Irlande et de son.
Bah déjà, c'était le quatrième gardien. Déjà, c'était un repêché de chez repêché.
On n'a pas parlé non plus des progrès de l'Irlande depuis l'Euro, parce que il y a quand même France-Irlande à l'Euro. Ouais. Vous le rappelez?
Oui.
Et là,
le contexte est pas le même. Ils ont strictement rien à jouer.
Beaucoup de blessures aussi. Une nouvelle génération, peu d'expérience. Je pense que c'était compliqué pour cette équipe irlandaise ce soir. Je pense que les 3/4 des joueurs étaient perdus. Il y en avait dans la sélection des 23, je crois qu'il y en avait 7 qui avaient jamais été sélectionnés. Sur le terrain, il y en avait 5 qui avaient moins de 2 sélections. C'est forcément compliqué dans ce genre de match quand on sait qu'on joue contre l'équipe de France. Forcément, on a un petit peu un complexe d'infériorité, je pense.
Oui.
On en saura plus après le match face à l'Italie, sans doute, vendredi à Nice.
Ça risque d'être un peu plus compliqué, normalement.
Voilà, on en reparle dans un instant de l'Italie qui s'est imposée demain face à l'Arabie Saoudite. On fait le point sur les autres rencontres du soir et sur les infos Coupe du Monde dans l'After. Évidemment, si vous voulez revenir sur l'équipe de France, l'After, c'est votre émission. 32-16, hashtag RMC Live, page Facebook de l'After, Direct Studio. Vous avez plein de moyens de discuter avec nous. On est là jusqu'à minuit, à tout de suite.
RMC, le Super Football Show, l'Afterfoot, Jean-Louis Tour.
L'After est là avec Pierre Ducrot, avec Laure Lepailleur qui est avec nous ce soir pour sa première après la victoire des Bleus 2-0 face à l'Irlande en match de préparation pour la Coupe du Monde à 17 jours du début de ce mondial. Vous êtes là sur le hashtag RMC Live comme Charles qui nous dit Laure Lepailleur, quelle bonne nouvelle. Les bons souvenirs de l'épopée des Bleus en 2011.
Ah oui.
La Coupe du Monde en Allemagne.
Ah oui.
Défaite face aux États-Unis en demi,
c'est ça.
Oh là là.
Mais ça reste mon plus beau moment.
Ton plus beau souvenir?
Bah ouais, les Coupes du Monde.
Ah, c'est à part, ouais. J'imagine. Enfin, moi, nous on imagine seulement.
Voilà. Ah oui, on imagine.
C'est le Graal pour un footballeur ou une footballeuse.
C'est ça. Bon, t'es goûté l'After à l'époque ou pas? Non. L'After n'était pas très foot féminin, hein, on va pas se le cacher.
Et malheureusement, pas que l'After en plus.
Mais les choses changent quand même.
Ah bah oui. Bah tant mieux, ça évolue. Justement, ça a été l'essor en fait au départ. Voilà, 2011, ça a été un petit peu le début de l'essor du foot féminin en France.
C'est ça. Alors, on revient sur les infos du jour. Les résultats du soir, déjà. Donc, je vous l'ai dit, l'Italie, futur adversaire des Bleus, a battu l'Arabie Saoudite 2-1. Alors, l'attraction, c'était Mario Balotelli, qui donc a marqué pour son retour en sélection pour la première fois depuis plusieurs saisons. Balotelli, donc, buteur dans cette rencontre. Belotti a inscrit le deuxième but avant une réduction de l'écart à 20 minutes de la fin de l'Arabie Saoudite. Bon, les Italiens, on l'a dit, hein, ce sera un peu plus solide face à l'équipe de France, c'est sûr, même si c'est aussi une équipe qui je vais pas dire démobilisé, mais bon,
dans un contexte particulier aussi.
Là aussi, oui.
Oui, mais ça reste l'Italie. Et en France, Italie, c'est jamais anodin et c'est tout le temps un peu particulier. C'est jamais vraiment amical.
Ouais.
Donc et puis dans ce contexte particulier, l'Italie a aussi besoin de repartir et de reconstruire. Ouais. Et effectivement, ça ferait tâche là dans la reconstruction de repartir de Nice avec un 2 ou 3-0.
Puis là, je vois la compo, il y a 2-3 bons joueurs quand même dans cette équipe.
Hein,
je pense que vendredi c'est vraiment un bon test match pour la France dans cette préparation. J'espère que Didier Deschamps, enfin de toute façon, je pense qu'il a plus trop le choix. Il les mettra potentiellement son 11 titulaire qu'il voit pour la Coupe du Monde.
Je suis pas sûr qu'ils mettent les 11 titulaires, moi là, parce qu'il va faire tourner. Tu vois, on parlait de Pogba, Tolisso. Je vois très bien Didier Deschamps mettre Pogba là pour ce match-là.
Je pense qu'il va se projeter, mettre son 11 de départ, peut-être pas sur l'ensemble de la rencontre, mais je pense.
Sur les 60 premières minutes.
Varane, je pense qu'il jouera parce qu'on a besoin de créer des automatismes avec Umtiti. Il jouera peut-être pas l'ensemble de la rencontre, mais je pense que c'est important. On a aussi des latéraux qui reviennent et les automatismes sur la ligne défensive, c'est hyper important. Avec le gardien aussi, du coup.
Exactement. Le Portugal a fait 2-2 face à la Tunisie. Alors, le Portugal menait 2-0. André Silva et João Mario ont marqué les deux premiers buts. On est à la 35e minute. Et finalement, donc, le Portugal fait match nul 2-2. Badri réduit l'écart et Ben Youssef égalise à une demi-heure de la fin, donc, pour la Tunisie. Bon, Nico Villas nous parlait de la sélection portugaise en Team Nuga cet après-midi. Il était pas forcément confiant et il nous disait même, je la sens pas cette Coupe du Monde. Dans un groupe pas facile avec l'Espagne en premier match, avec
l'Iran.
Le Maroc en deuxième match et l'Iran, effectivement. L'Iran qui a perdu 2-1 en Turquie d'ailleurs ce soir. Attention les Portugais.
Ça va pas être facile.
Et puis sans un groupe compliqué en plus.
Groupe compliqué. Ouais, ce soir moi je vais pas pouvoir en dire grand chose puisqu'on forcément on n'a pas vu les deux matchs, hein, mais je fais confiance à Nico Villas en tout cas pour l'état de forme actuel de la Seleção portugaise et effectivement le groupe est très compliqué. Mais attention, il y a d'autres groupes qui sont compliqués. Il y a d'autres groupes qui sont compliqués.
Ah bah
attention.
Oui, c'est vrai.
Voilà. Il peut y avoir de moi pour moi la surprise de ce mondial sera dans notre groupe.
Ah bon, c'est le Pérou qui passe.
Ouais.
Donc le Danemark éliminé ou la France éliminée?
Non, la France on passe. Non, la France on passe.
Donc le Danemark éliminé. Danemark qui a sans doute perdu Bettner. Voilà. Bah alors après, est-ce que c'est une bonne nouvelle ou non pour la France?
C'est une mauvaise nouvelle pour eux déjà, mais est-ce que toutes les mauvaises nouvelles pour le Danemark sont forcément des bonnes nouvelles pour la France? Je sais pas.
Ça pourrait être l'affaire de plusieurs semaines, a dit le médecin norvégien. Même s'il est trop tôt, blessure musculaire, dit-on là-bas. Donc on est assez.
Pourquoi norvégien? C'est un médecin norvégien avec le Danemark?
Non, parce qu'ils étaient en Norvège.
Ah, c'est pour ça.
Voilà. C'est pour ça. Mais c'est vrai que c'était étrange. Voilà. Non, parce qu'il joue à Rosenborg.
Ah, c'est pour ça.
Ok. J'étais pas loin. Alors, sur les blessés d'ailleurs autour de la Coupe du Monde, sur Carvajal, la presse espagnole est plutôt optimiste pour sa participation. On parle d'une rupture du muscle semi-tendineux.
Alors là, quoi, tu sais pas ce que c'est, Jean-Louis?
Bah, je me tourne vers vous.
L'ischio?
Oui, enfin, ça allait pour où? C'est quoi? C'était l'ischio? Le muscle semi-tendineux, ça veut rien dire. Quel muscle surtout?
Bon,
faut savoir si c'est l'ischio, le quadril, je sais pas, moi, le
moyen, enfin, c'était la cuisse, je crois. Je pense qu'il compose l'ischio. Le semi-tendineux, non?
D'accord, c'est ça.
L'essentiel, c'est qu'il soit rétabli pour la Coupe du Monde, Jean-Louis. Te tracasse pas.
Voilà, a priori, ce sera le cas. Bon, je cherche quand même parce que ça m'énerve cette histoire-là.
Docteur Maboul.
Mais bon, c'est pas très clair. Oui, l'ischio. Voilà, l'ischio. Bravo.
Bon.
Voilà, Laure est médecin. Ah bah oui, aussi.
J'ai fait un peu de STAPS à une époque, il y avait un peu d'anatomie, c'est pour ça.
C'est ça. Salah aussi, on est assez optimiste. Hein. On parle pas de luxation, on parle plutôt d'une petite entorse.
Ouais, mais ils disent qu'il pourrait peut-être être absent le premier match.
Oui, mais bon,
dans la sélection, mais absent le premier match.
En général, le problème de ce genre de blessure, c'est que dès que tu retombes un petit peu sur l'épaule, dès que t'as un choc, ça peut, enfin, une entorse à ce niveau-là, ça peut être très très gênant dans les duels, etc. Bon, j'espère qu'il sera pas diminué ou gêné toute la Coupe du Monde, parce qu'on a très envie de voir un Salah en pleine forme, mais il y a des chances quand même, moi je pense.
Et puis info transfert qui concerne Fabinho. Donc ça y est, il quitte Monaco. Ça a été officialisé donc dans la soirée. 5 ans à Liverpool pour donc le milieu de terrain brésilien. Et on a pu avoir sa première réaction sur RMC.
Pour combien le transfert?
50 millions.
Voilà.
Ok. On peut l'écouter, Fabinho.
C'est un grand club, c'est un club très ambitieux, c'est un club qui sur les dernières années a fait des très belles choses. Ils ont arrivé en deux finales européennes. Sur les championnats anglais, ils sont toujours là. Ils sont toujours les premiers en place des Champions League. Et c'est un club que je pense que je peux beaucoup grandir, beaucoup apprendre. Et voilà, j'espère continuer de grandir dans ces grands clubs.
Voilà, et on vous a mis une interview en entier sur rmcsport.fr. Il peut s'imposer à Liverpool,
ouais, il va falloir que ça bagarre, hein, parce que t'as Henderson qui est capitaine, t'as des joueurs qui pour moi sont là-bas très en place, Wijnaldum, Milner au milieu, enfin des joueurs de cette trempe-là. Donc il a les qualités pour, mais ça va pas être facile, ouais.
Ouais, il a été un petit peu, enfin je l'ai trouvé moins bon cette saison que la saison précédente, mais c'est vrai que s'il retrouve la pleine forme de la saison d'avant, je pense qu'il peut prétendre à une place de titulaire dans cette équipe.
Ouais. Voilà.
Ah, c'est l'eau des grands clubs, voilà, il voulait accéder à un grand club, il y accède, il va falloir se bagarrer pour jouer ensuite.
Et ça bouge déjà donc sur le mercato. L'équipe de France, je vous le rappelle, a battu l'Irlande 2-0, c'est la fin de l'after. Pierre, merci beaucoup.
Mais de rien, Jean-Louis.
Merci Laure Lepailleur,
merci à
Laure
vous.
Pour cette première donc dans l'after. Bravo Laure. Et puis donc l'after revient.
En général, la deuxième, c'est avec Daniel, par contre. Tu verras, c'est autre chose.
Bah, j'ai hâte.
Commence tranquillement. Bon, ça se passera bien. Il est gentil dans le fond, quand même.
Oui.
L'after revient demain, avec Daniel, d'ailleurs. Entre 22h et minuit, bien sûr, sur RMC, sur BFM Sport. Et ce soir, on est également sur SFR Sport. On salue les téléspectateurs d'SFR Sport qui retrouveront le vestiaire traditionnellement demain. Bonne nuit à tous.
RMC, le super football show, l'after foot.